Voilà, je salue ceux que je n'ai pas salués personnellement. Je suis heureux d'être avec vous. C'est super de savoir que vous êtes là et que vous êtes la lumière dans cette ville de Cavaillon. Pas les seuls, il y a d'autres frères qui sont aussi à Cavaillon. Mais voilà, fidèles. Et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on se connaît. Avec Carpentras à l'époque, quand je venais ici, je pouvais donner les salutations de Carpentras. Ah, maintenant c'est fini. Je donne les salutations de l'Île-sur-la-Sorgue. Parce que, en fait, je suis engagé dans l'église de l'Île-sur-la-Sorgue. Et puis il y a quelque chose qui me réjouit cette année, enfin l'année prochaine, c'est que nous pourrons, Dieu voulant, faire notre week-end d'église. Ça nous a manqué. Pendant toute cette période de pandémie, on n'a pas pu le faire. C'était... Voilà, alors, c'est une belle perspective devant nous et je me réjouis à l'avance déjà de pouvoir vivre cela. C'est formidable. Voilà, écoutez, si vous voulez bien, je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour la joie de se retrouver. Merci pour ta présence. Merci pour l'amour que tu nous communiques sans cesse. Parfois, c'est nous qui rompons le lien. Mais toi, tu ne le romps jamais. Merci parce que, oui, nous savons que tu es là. Tu es là en nous et tu es là au milieu de nous. Alors parle-nous, Seigneur. Parle-nous et permets-nous d'avancer sur ce chemin dans lequel nous nous sommes engagés dans la direction de ton Fils Jésus. Alors, Seigneur, fais-nous progresser dans ce chemin. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai eu à cœur de partager un texte, enfin, un message que j'ai déjà donné. Normalement, il y a quatre messages sur le sujet. Mais là, n'ayez pas peur, il n'y en a qu'un, hein, ce soir. Le thème, c'est sur la sanctification. Alors, j'aurais juste un texte à lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, versets 14 à 16. C'est très court. 1 Pierre 1, 14, 16. Un enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saint car moi je suis saint. Alors, le thème de la sanctification, eh bien, c'est un élément incontournable de la vie chrétienne. Ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Vous serez saints, car moi, je suis saint, dit Dieu. Dieu a mis dans nos cœurs régénérés ce désir de sanctification. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, on pourrait douter de notre réelle conversion. Parce que c'est normal. Quand nous avons donné notre cœur à Jésus, eh bien, nous nous sommes engagés sur ce chemin et notre désir est de progresser dans ce chemin. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous en souligne aussi l'importance. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cette exigence de sainteté résonnait déjà aux oreilles du peuple d'Israël tout au long de son histoire. Suite à la promulgation de la loi par Moïse, hein, d'où Pierre tire lui-même cette citation, Lévitique 19, verset 2, « Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Ainsi, tout chrétien né de nouveau voudra forcément plaire à Dieu. Forcément plaire à Dieu. Et ce n'est pas un élément facultatif. Nul chrétien n'en est exempté. C'est même vital pour nous. Et l'apôtre Paul aborde lui aussi ce même thème de la sanctification dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 1er. « Maintenant, donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous deviez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Et puis au verset 3 de ce même chapitre, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Et au verset 7, en effet, Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la consécration. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que c'est le désir de Dieu. C'est ce qu'il veut pour nous. D'où son ultime formule de Paul de bénédiction dans sa lettre. L'apôtre insiste sur ce sujet, toujours dans Thessaloniciens, au chapitre 5 de ce chapitre, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, peut-être vous commencez à dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il va nous dire là ? Il nous met la barre haute. Hein. Oui, c'est vrai. Mais tel devrait quand même être notre chemin de vie en Christ. Oui, mais quand même. Heureusement que le bénéfice de la grâce de Dieu dépasse et de loin la constance de notre propre désir de sanctification. C'est bien de ne pas oublier que la grâce de Dieu est là et qu'elle nous accompagne dans ce chemin, dans notre marche, avec ce but qui est la sanctification. Mais alors, la sanctification, c'est quoi ? Alors, avant de répondre, il faudrait peut-être définir ce que sont les trois étapes qui, successivement, interviennent dans notre vie lorsque nous devenons des chrétiens, des croyants en Christ. Alors, il y a une que je nommerai la justification, qui se fait au départ de notre vie chrétienne. La glorification qui, elle, c'est à la fin de notre marche avec le Seigneur, au terme du chemin. Et puis la sanctification que nous abordons aujourd'hui, qui commence dès le départ et qui s'achève au bout de notre chemin. La justification, c'est l'action de déclarer juste. C'est un terme juridique, la décision du juge de déclarer l'accusé coupable ou innocent. Et la Bible déclare que devant Dieu, notre juste juge, nous sommes tous pécheurs et coupables. Romains 3, verset 20. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi. Et au verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus, notre avocat, a payé à notre place la rançon, le prix de notre péché. 1 Pierre 3, verset 18. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Dès que nous reconnaissons sincèrement notre nature de péché et que nous en demandons pardon à Dieu, la repentance, il répond en nous accordant son pardon et c'est là que nous sommes nés de nouveau pour une vie nouvelle. C'est la toute première étape de la vie chrétienne. Son accomplissement est immédiat, même si parfois, pour arriver à la repentance et à la conversion, ça peut prendre du temps plus ou moins chez les uns ou chez les autres. Mais cette étape, quand elle a lieu, appartient au passé. Quand elle a eu lieu, appartient au passé dans notre vie en Christ. Sinon, c'est qu'elle n'a pas eu lieu et qu'il n'y a pas eu de nouvelle naissance. La justification, ça y est, c'est acquis, c'est là. Quand on a donné son cœur à Jésus, il n'y a plus besoin d'y revenir, c'est vrai. La deuxième étape, c'est la glorification. Mais celle-là, par contre, la deuxième... la deuxième, la glorification. Merci. Non, mais si, c'est moi qui prêche. La deuxième, non, mais. S'il te plaît. C'est joli, hein.
C'est pas pour moi.
Oui, d'accord. La glorification, je dis que c'est la deuxième. La deuxième, parce que c'est un terme qui implique l'élévation à la gloire éternelle des élus de Dieu. Et le psaume 73, 23-24, dit ceci: « Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as empoigné la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. » Là encore, il s'agit d'un événement immédiat, à un moment donné, au terme de notre chemin dans ce monde et au jour ou au jour du retour du Seigneur, mais cela ne concerne pas notre présent, mais notre futur éternel. Il faut toujours attendre qu'on finisse les phrases. On est entre nous, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas la montrer ce soir. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Notre vie en Christ ici-bas se situe donc entre ces deux événements. Depuis le jour de notre conversion, notre justification, jusqu'à celui où nous serons auprès du Seigneur, notre glorification. Alors, entre les deux, il y a la sanctification. C'est là où nous sommes et c'est là où nous en sommes. Entre ces deux éléments que sont la justification et la glorification, nous avons ce troisième, la sanctification, qui ne survient pas comme un phénomène instantané, mais comme un mouvement progressif qui commence au début de notre conversion et qui se poursuit dans notre quotidien, sans interruption, jusqu'au bout de notre chemin, ici-bas. Et nous saisissons mieux ainsi l'appel de l'apôtre: marcher de progrès en progrès. Car si nous sommes saints aux yeux de Dieu dès la nouvelle naissance, par le sang de Jésus-Christ, nous ne le sommes certainement pas encore aux yeux de ceux avec qui nous vivons, notre conjoint, nos enfants, et même parfois aux yeux de nos frères et sœurs de l'Église. Dans le Nouveau Testament, le mot « salut » couvre ces trois réalités. Passé, justification. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Présent, notre sanctification. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Philippiens 2, verset 12. Et puis futur, 1 Pierre 1, verset 5. Vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Hier, on a été sauvés par la grâce seule, sans recours aux œuvres de la chair. Demain, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Le programme aujourd'hui, eh bien, c'est notre marche dans la sanctification. Alors, nous sommes tous devenus membres du grand orchestre de Dieu. Alors, pour cela, nous sommes tous appelés à accorder nos instruments, hein, parce que nous aurons un grand concert à donner quand nous serons tous ensemble devant Dieu pour l'éternité. Mais voilà, la sanctification au fond, comment ça s'attrape? Concrètement, que signifie « soyez saints » et comment y arrive-t-on? Serait-il possible enfin de ne plus pécher? Eh bien, ça reste quand même notre objectif. Et c'est dans cette direction que nous nous sommes engagés. Mais vous conviendrez avec moi que ce n'est pas si simple. Il peut arriver parfois que devant le constat de nos faiblesses sur ce sujet, nous soyons tentés de vouloir trouver une proposition qui nous ferait accéder rapidement à une vie beaucoup plus saine, plus sainte. Mais là, dans cette sorte de recherche, il y a des pièges. Et je vais vous mentionner trois pièges à la recherche de la sainteté. Et d'abord, la fausse piste du légalisme. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Voilà, en résumé, le légalisme que nous trouvons en Colossiens chapitre 2, versets 20 à 23. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en a fait usage. Il s'agit bien là de recommandations et d'enseignements humains. Ils sont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans valeur et ils ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Face aux exigences de la justice, de la miséricorde et de la fidélité, il est toujours tentant de se rabattre sur la dîme de la menthe et de la nette et du cumin. C'est ce que Jésus reprochait aux scribes et aux pharisiens dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et que vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. Face aux exigences de l'amour, il est tentant de se cacher derrière les « je n'ai pas volé, je n'ai pas tué » et sans oublier « je ne fume pas, je ne bois pas, j'assiste tous les dimanches à l'église ». D'ailleurs, comme le souligne le même texte, le légalisme dans son apparence de sagesse ne peut empêcher l'orgueil ou la satisfaction de la chair pour notre vie. Polluer notre vie, pardon. Et puis le deuxième piège, c'est la piste d'une super seconde expérience extraordinaire. Insatisfaits de notre vie de tous les jours avec le Seigneur, nous visons inconsciemment un truc, une astuce qui nous élèvera soudainement jusqu'au septième ciel. Ainsi, le chrétien désirant plaire au Seigneur chercherait tôt ou tard à voir s'il existe un moyen à sa portée pour atteindre au plus vite le but, cet autre niveau de vie spirituelle qu'il ne connaît pas encore. Cependant, la Bible, l'Écriture ne fait pas mention de raccourci pour le ciel. Tous les conseils bibliques qui nous sont proposés pour notre marche indiquent la progressivité dans notre marche vers la sanctification et la fidélité. La marche pas à pas, le pèlerinage d'étape en étape, la construction pierre par pierre, la plante qui croît jour après jour, le corps qui se forme et grandit imperceptiblement. La sanctification ne fonctionne pas comme un bouillon de soupe instantané. Les expressions « marchez » et « défiez-vous » nous indiquent un sens persistant, progressif, plutôt qu'un télésiège miraculeux qui nous propulse vers les hauteurs de la sanctification. Même si certains progressent plus vite que d'autres, il n'empêche qu'il faut du temps pour que s'établisse un homme de Dieu, une femme de Dieu. Puis il y a un troisième piège qui est le quiétisme. C'est quoi ça ? C'est une doctrine mystique d'un théologien qui, selon laquelle la perfection chrétienne consiste à vivre dans un état de contemplation passive et d'absorption en Dieu. Sans forcément porter le nom de quiétisme, cette doctrine a encore la vie longue. Combien de fois nous entendons l'idée que nous sommes plus proches de Dieu en pleine nature sauvage, plus que dans la vie mouvementée de nos villes. Alors si l'on peut concevoir qu'il est bon de s'arrêter à l'écart, à part pour prendre un moment de calme et de recueillement pour chercher la face du Seigneur, nous ne sommes pas invités à nous extraire du monde où nous vivons. Au contraire, car c'est là notre lieu d'action pour le témoignage de l'Évangile, en parole et en action. Certains pourront nous citer Jean 15, l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 20, où Jésus nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », comme une sorte d'invitation à la passivité. Nous n'avons rien à faire, c'est ce qui fait tout. Mais faut-il comprendre ce verset dans le sens « Avec moi, vous n'avez rien à faire » ou plutôt dans le sens « Avec moi, vous pouvez tout faire ». Poser la question, c'est déjà y répondre. Et que dire de ces autres textes de l'Écriture qui nous invitent à l'action ? Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, 1 Corinthiens 15, verset 58. Je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4, verset 13. Pour être complet, avant d'aller plus loin, pour suivre les contours bibliques de la sanctification, il faut admettre que dans ces trois fausses pistes, elles comportent quand même chacune d'elles une part de vérité, malgré tout. Le légalisme souligne la nécessité de la discipline dans la vie chrétienne. Et la vie chrétienne a besoin de discipline. La deuxième expérience nous rappelle de notre propre insuffisance et notre immense besoin de l'Esprit de Dieu pour qu'il agisse en nous. En somme, ce n'est pas une deuxième expérience que nous avons besoin. Nous avons besoin d'une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, tout au long de notre vie, pour progresser et pour avancer. Et puis le quiétisme met l'accent sur l'importance de notre face-à-face quotidien et intime avec le Seigneur, en notre moment de culte personnel. Matthieu 6, 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et qui voit dans le lieu secret, te le rendra favorablement. Alors voyons ensemble le modèle biblique de la sanctification. Un texte très intéressant résume à une seule longue phrase le parfait équilibre biblique sur la sanctification. 2 Pierre 1, verset 3 à 10. Alors nous y lisons d'abord tout ce que Dieu fait pour nous. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie, à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise, et devenir participant de la nature divine. Alors jusque-là, nous pourrions penser, après cette lecture, qu'il ne nous reste plus qu'à accepter tout cela et nous laisser vivre tranquille. Mais pas si simple, parce que la suite du discours nous ramène à la réalité de notre existence sur cette terre. Pour cette raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveugle par sa myopie. Il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Nous sommes donc sauvés par la grâce de Dieu, sans nos efforts. Cela ne peut venir que de lui. Il en est de même pour notre glorification. Lorsque nous achèverons notre course ici-bas sur cette terre, ça ne peut venir que de lui. Mais pour ce qui est de la sanctification, Dieu nous dit aussi que c'est son œuvre. Jean XV, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il veut aussi que chacun de nous y ajoutions entièrement la nôtre. Philippiens 2, verset 12. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Ainsi donc, chacun de nous, sans exclusion, sommes tenus de nous impliquer dans ce chemin, sur ce chemin de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Prions. Seigneur, nous sommes conscients que nous sommes en route, nous sommes conscients que nous ne sommes pas arrivés, mais nous sommes heureux de marcher dans ta direction et surtout de te savoir à nos côtés. Seigneur, nous ne pouvons pas y arriver tout seuls, mais tu connais notre désir de marcher, notre désir de te plaire. Seigneur, vraiment, accompagne-nous dans ce sens. Donne-nous, Seigneur, de progresser. Donne-nous, Seigneur, de vaincre chaque fois que nous sommes attaqués dans ce domaine. Merci parce que la victoire est en toi. Et ce n'est pas simplement une promesse, c'est une réalité. Nous pouvons l'expérimenter, nous pouvons le vivre. Merci, Seigneur. Tu sais nos désirs. Tu sais que c'est notre désir de nous approcher sans cesse de toi, vers toi. Merci, Seigneur Jésus. Amen.